Vous écoutez Les Mots Raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adult, notamment de la saga de dystopie fantastique Absolue, parue chez Big Bang, numéro 1 des ventes jeunesse à sa sortie. Les Mots Raturés, c'est le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux acteurs du monde de l'édition et qui vous aide à aller des premières idées à la publication de votre roman. C'est aussi une académie en ligne avec des masterclass et des ateliers en live chaque mois. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Bienvenue sur Les Mots Raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Margot de Seine, étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans. Dans ce podcast, je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Johanna Vogel, qui est une ancienne conservateur des bibliothèques et aujourd'hui coach en développement personnel pour les auteurs au sein de l'ICAR. Dans l'épisode du jour, on parle de motivation, de syndrome de l'imposteur, de peur de l'échec, de page blanche et de santé mentale. En bref, de tous les blocages des écrivains. Comme d'habitude et comme je vous en avais parlé également avec l'épisode de Lucie Castel, j'ai l'immense plaisir d'être partenaire LICAR pour leur formation Devenir écrivain, projet best-seller, qui ferme bientôt ses portes. Ce qui me permet de vous proposer 70€ de réduction avec mon code Margot, tout simplement. Et ça, je suis très heureuse de le proposer parce que c'est une formation onéreuse, même si elle vaut le coup, vraiment. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, si vous souhaitez investir dedans. Dans tous les cas, je vous laisse écouter toute cette interview pour en apprendre plus sur la formation, mais surtout plus sur comment surmonter les blocages d'écrivains, parce que c'est la spécialité de Johanna. Bonne écoute. Coucou Johanna.
Bonjour Margot, comment est-ce que tu vas?
Bien et toi?
Ça va bien, merci. Je suis bien contente d'être avec toi. Et puis, merci à toi de m'avoir sur ton podcast, de me faire découvrir ta communauté et de me faire découvrir à eux.
Vraiment, le plaisir est partagé. Surtout qu'on a eu beaucoup de difficultés, rien qu'à enregistrer là, ces 3 premières secondes.
On est vaillante. fallait pas le dire, Margot, fallait pas le dire.
Moi, je suis totalement transparente. La technologie était contre nous ce soir, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour votre plus grand plaisir. Johanna, est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui écouteraient ce podcast et qui ne te connaîtraient pas?
Bien sûr. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Johanna Vogel. J'ai 36 ans cette année depuis pas si longtemps. Et ce qui va surtout vous intéresser par rapport à moi, c'est que je suis coach en projet littéraire. Donc, comment est-ce qu'on devient une coach en projet littéraire et qu'est-ce que fait une coach en projet littéraire? Eh bien, cette coach-ci en particulier, elle était conservateur de bibliothèque pendant 10 ans. Donc, ça faisait un petit moment que j'étais dans le milieu du livre et que ma passion et mon travail tournaient autour du livre, de son accès au grand public et de la chaîne de l'édition. Et de fil en aiguille, pour tout un tas de raisons, j'ai eu envie de me lancer dans l'accompagnement des personnes un petit peu plus en one-on-one, un peu plus en direct que par l'intermédiaire d'un grand et bel établissement comme est la bibliothèque. Et du coup, j'ai allié des choses qui me passionnaient, à savoir le monde de l'édition justement, le livre, le fait d'écrire des livres et le développement personnel, l'accompagnement des personnes pour dépasser leurs croyances limitantes, pour s'organiser dans leur vie afin d'arriver à ce qu'elles veulent faire et, en l'occurrence, écrire un livre. Voilà.
Juste une chose à dire, wow, toutes les personnes qui écoutent régulièrement mes podcasts le savent, cette première question est souvent la plus difficile et tu l'as surmontée avec brio. Prenez des notes pour toutes les personnes qui veulent être un jour
interviewées. Alors, c'était un pro total, tu vois, un pro total, tu commences à savoir un petit peu comment te présenter au fur et à mesure que les gens te disent « mais t'es quoi une coach? Mais tu fais quoi en fait ?» Ça sert à quoi une coach?
Très clair. Et du coup, ça me vient une question. Tu as été conservateur des bibliothèques. Qu'est-ce que c'est? Peux-tu me parler de ce métier?
Bien sûr, avec plaisir. Dans la grande et belle famille des personnes qui travaillent en bibliothèque, il y a deux deux cadres d'emploi qui vont faire le gros des cadres des bibliothèques. Des personnes qui vont diriger les bibliothèques et les équipes de bibliothèques, il y a les bibliothécaires, que souvent c'est un mot qu'on utilise un peu pour tout le monde quand on parle d'une personne qui travaille en bibliothèque, mais en fait un bibliothécaire c'est un cadre, et juste au-dessus du bibliothécaire hiérarchiquement, il y a le conservateur de bibliothèque. Donc moi je travaillais en bibliothèque publique, hein, donc en bibliothèque municipale, et du coup le conservateur de bibliothèque généralement c'est un directeur de bibliothèque ou un directeur adjoint de bibliothèque, et quand vraiment tu travailles dans une très grande ville, tu peux être aussi responsable d'un secteur particulier ou chargé de projet sur des missions particulières pour la bibliothèque. Par exemple, tu peux t'occuper de la charte de politique documentaire. S'il y a des bibliothécaires qui sont dans ton audience, soit ils vont lever les yeux au ciel, soit ils vont lever le poing en disant « Ouais, je connais !» et je me casse bien les dents dessus. Donc, en gros, voilà, ça peut être la personne qui va essayer de voir qu'est-ce qu'on achète dans la bibliothèque, tu vois. Qu'est-ce qu'on prend comme livre, qu'est-ce qu'on prend pas, qu'est-ce qu'on dit aux gens quand ils nous demandent si on peut acheter un livre qu'ils aimeraient qu'on ait, tout ça. Donc, voilà. Un conservateur de bibliothèque, c'est un cadre de bibliothèque. Et moi, en l'occurrence, j'étais dans l'équipe de direction de la bibliothèque de Poitiers pendant presque 5 ans. Et après, j'étais responsable d'une bibliothèque sur Lyon. Donc, je faisais partie du beau réseau des bibliothèques de Lyon. J'étais responsable de la bibliothèque du 8e. Gros coucou à des collègues s'ils m'entendent.
Eh ben, tu sais quoi, je découvre totalement un métier.
Vraiment.
Bah oui, c'est vrai. Je savais pas que ce métier existait.
C'est vraiment un cadre d'emploi. Tu vois, c'est un joli mot pour donner un certain type de fonction dans les bibliothèques, mais on peut faire le même métier que des bibliothécaires dans des plus petites villes, par exemple. Donc voilà. Mais ça fait bien. Ça fait joli.
je vois ça. Et donc aujourd'hui, tu es coach littéraire au sein de l'ICAR, donc l'ICAR qui est l'Institut de formation littéraire, où j'ai déjà reçu Lucie Castel dans le podcast, donc n'hésitez pas, si vous aimez bien cet épisode, à aller écouter celui de Lucie, parce qu'elles sont très complémentaires, elles ne font pas le même métier à l'ICAR. Et justement, toi, quel est ton rôle au sein de l'ICAR ?
Alors, quel est mon rôle au sein de l'ICAR ? Alors, en effet, j'aurais peut-être dû même commencer par là. Ça aurait été plus logique quand je me suis présentée de dire qu'est-ce que
c'est
je faisais. je suis cofondatrice de l'Institut des carrières littéraires, l'ICAR, qui est une école pour toute personne, tout passionné d'écriture, qui souhaite écrire un roman et se lancer dans une carrière d'écrivain. Donc, à l'ICAR, qu'est-ce que je fais ? L'ICAR, donc, c'est un institut de formation et j'ai deux, on va dire, deux casquettes par rapport à l'ICAR. Le premier, c'est celui dont je vous ai déjà parlé parce que je suis la coach de l'ICAR. Donc, nous avons des élèves à l'ICAR, nous donnons une formation qui s'appelle « Devenir écrivain projet best-seller » et que Margot a testé, a été cobaye avec nous, ou plutôt, je devrais dire, on a eu la chance d'avoir Margot comme élève à l'ICAR.
Non, il faut le dire, j'ai été cobaye. Hein.
ça allait dans les deux sens. On était très, très contents de t'avoir avec nous et on espère que tu as bien profité oui. de ta session. Et du coup, voilà, on offre une formation, enfin on offre, on propose, c'est plutôt le meilleur terme. On propose une formation qui s'appelle « Devenir écrivain, projet best-seller » et qui permet aux personnes d'apprendre à écrire un roman qui est au niveau d'exigence des éditeurs. Et ensuite, comment le soumettre aux maisons d'édition, s'ils souhaitent le soumettre aux maisons d'édition. Sinon, évidemment, ils peuvent se lancer dans la très belle aventure aussi qu'est l'édition indépendante. Et du coup, dans cette formation-là, j'interviens en tant que coach en proposant à nos élèves deux choses. La première, c'est tout un module de formation sur le dépassement de ses croyances limitantes. Donc, en gros, comment pas se démotiver et arrêter d'écrire ou balancer son PC par la fenêtre dès qu'on a l'impression que ce qu'on fait, c'est nul et que personne n'en voudra jamais. Bref, tout ce qui peut se passer dans la tête d'un auteur et qui l'empêcherait d'aller jusqu'au bout de son roman, tout ce qui peut le faire s'auto-saboter par rapport à son projet, j'interviens pour l'aider justement à dépasser ça avec un module de cours en vidéo et avec du coaching en direct aussi avec nos élèves. Et j'interviens aussi sur un deuxième domaine qui est celui de l'organisation personnelle. Donc là, ça vient plutôt de mon background de chef de bibliothèque plutôt que de coach, mais l'un va avec l'autre. Et c'est pour aider nos élèves à trouver du temps pour écrire, à se faire un planning, ou c'est pas un mot que tout le monde aime, et surtout à tenir un planning s'ils s'en font un, d'une manière générale, donc à tenir ses engagements envers soi-même sur le temps qu'on veut passer sur son projet d'écriture. Donc ça, c'est un peu ma facette, on va dire, technicienne et vraiment où j'entre dans le vif du sujet sur mon intervention avec nos élèves, avec les futurs auteurs et les auteurs. Mais après, à l'ICAR, comme je disais, je suis la cofondatrice en fait de cette école. Et à ce titre-là, je suis un peu couteau suisse, on va dire.
Les Reels, par exemple.
Oui, par exemple, je suis à la fois chargée du marketing de notre belle école, je suis à la fois community manager parce que je gère les réseaux sociaux de l'ICAR, et quand je dis les réseaux sociaux, c'est surtout Instagram parce qu'on a choisi de focaliser sur Instagram, et je suis aussi, on va dire, responsable pédagogique, donc là aussi, c'est un beau gros mot pour dire que je suis le parcours des élèves, en fait. Donc, c'est moi qui suis l'interlocutrice de nos élèves du début à la fin de leur formation. S'ils ont des questions, si tout va mal, si tout va bien, c'est vers moi qu'ils se retournent. Donc, ça, c'est un peu le côté entrepreneur, en fait, tout simplement. Je pense que Margot, tu le sais bien toi-même, les entrepreneurs, c'est des couteaux suisses, c'est un moment. Avant de pouvoir déléguer plein des choses, il faut faire plein des choses par soi-même.
Exactement. Donc, vous saurez, la prochaine fois que vous enverrez un message sur Instagram à l'ICAR, vous dites « Bonjour Johanna », parce que c'est elle qui vous répondra. Et au-delà de la blague, effectivement, j'ai participé à cette formation. D'ailleurs, gros bisous à la promotion Artemis s'ils nous écoutent, parce que voilà, c'était ma promotion et j'étais très heureuse d'en faire partie. Et bien sûr, j'ai pu participer à un de nos coachings individuels qu'on a pu avoir ensemble et qui m'a bien monté le moral, parce que j'étais déprimée comme tout au moment d'envoyer mon roman en maison d'édition. Et justement, j'ai appelé Johanna à ce moment-là, 3 ou 4 jours avant d'envoyer, et elle m'a vraiment remonté le moral. Bref, à part et à part. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on apporte du développement personnel à l'écriture. Est-ce que c'est tes études aux États-Unis qui ont un peu influencé ça ?
Alors, oui et non. Alors, en effet, tu parles de mes études aux États-Unis. J'ai eu la chance de faire quelques années d'études aux États-Unis. Et en fait, on va dire que l'idée même de faire une formation pour les personnes qui veulent écrire un roman et de faire vraiment ce projet LICAR, ça vient de mes études aux États-Unis. Alors, faire de la formation, pas que, ma comparse que tu as eue sur le podcast, Lucie Castel, est formatrice de métier, donc elle était convaincue depuis très longtemps que la formation c'était génial et que c'était le plus beau métier du monde, mais aux États-Unis, et pas que, dans beaucoup de pays anglo-saxons en particulier, mais européens d'une manière générale, on apprend en fait aux gens à écrire de la fiction à un niveau universitaire. C'est ce qu'on appelle les cours de creative writing pour tous ceux qui sont anglophones. Voilà. Vous avez sûrement déjà entendu ce nom, et tout simplement, c'est le fait d'apprendre les bases de la narratologie, de faire des classes où on aura vraiment des ateliers d'écriture dans un cursus universitaire. Et ça, jusqu'à présent, ou en tout cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça n'existait pas en France, c'était pas quelque chose qui se faisait. On faisait de très belles études de littérature, mais les études de la littérature, ça va être beaucoup de voir les textes et de comprendre comment les textes fonctionnent, l'intention de l'auteur dans ces textes, mais ça va pas être comment on écrit un roman. Enfin voilà, ça commence un petit peu. Je sais que il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé d'un master. Alors je sais plus son intitulé, mais qui serait autour de la création littéraire. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le contenu du master, ne me demandez pas. À chaque fois, les gens me disent « Ah, est-ce qu'il faut plus que je fasse l'ICAR, ce master en création littéraire ?» Et c'est absolument pas la même chose, donc, mais je ne sais pas. Et du coup, au moment où où moi je suis revenue des États-Unis, je me suis rendu compte que ce que moi j'avais fait aux États-Unis, c'est-à-dire je m'étais jetée sur les cours de creative writing, j'avais écrit des nouvelles en cours, c'était trop cool, c'était trop bien, ça n'existait pas en France. Et ça a été vraiment un point de départ pour l'aventure de l'ICAR, de se dire mais tu sais. Mais pourquoi ça n'existe pas ? Nous, on est convaincus du fait que la formation, qu'on peut se former en fait à l'écriture. Voilà. Alors, non, on ne te donne pas toutes tes idées et on ne peut pas te donner ton idée d'histoire, te l'implanter dans la tête à la Inception, même si on voudrait bien. Mais en tout cas, savoir comment écrire un roman, comment une histoire se construit, ça, on peut l'enseigner. Tout ça pour dire que je vais arriver à ta question avec le développement personnel. Mais oui, Margot a oublié de vous dire que je parle beaucoup.
Oui, mais tu ne perds jamais le fil des questions, c'est ça que j'apprécie chez toi.
C'est une belle façon de dire que je ne la laisse pas en placer une, mais voilà, en m'invitant dans le podcast, elle savait que ça allait être un peu...
Pas de souci, je l'ai accepté d'avance.
Et du coup, le développement personnel, ce n'est pas quelque chose que j'ai connu particulièrement aux États-Unis. En fait, j'étais déjà de retour en France quand j'ai commencé à m'y intéresser. C'est quelque chose que j'ai découvert en m'intéressant à l'entrepreneuriat. Donc là, je reviens un peu aussi sur des thématiques que tu abordes dans ton podcast. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, il y avait tout le côté de la technique, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que tu fais concrètement quand tu veux monter ta boîte et avoir une activité dans laquelle tu es ton propre patron. Mais il y avait justement tout ce côté, les outils c'est bien, la technique c'est cool, le problème c'est que tout se joue sur ton mental. Parce qu'une fois que tu sais ce que tu veux faire ou que tu sais à peu près comment ça peut se faire, encore faut-il aller le mettre en place, te mettre en avant, passer à l'action. Et donc, c'est vraiment en explorant l'entrepreneuriat que je me suis ouverte au développement personnel. Et petit à petit, c'est devenu une vraie passion pour moi. Voilà, avec alors quand même un peu le côté américain, parce que je suis j'aime beaucoup écouter plein de podcasts et lire beaucoup de livres en anglais, les personnes que je suis principalement et les idées qui m'ont ouvert au développement personnel, c'était des gourous américains, on va dire ça comme ça, en tout cas des personnalités américaines, mais voilà, d'une manière générale, c'était plutôt en fait par l'entrepreneuriat que je suis arrivée au développement personnel et que c'est devenu quelque chose qui m'a semblé être le nerf de la guerre dans tout, et notamment pour nos élèves, pour des aspirants auteurs. C'est bien de cette idée justement de vouloir amener la technique d'écriture au plus grand monde et de se dire mais pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas comment écrire un roman en France, mais en fait de plus en plus ma partie à moi c'était de me dire oui, c'est bien de le savoir, mais ça ne sert à rien si derrière, il n'y a pas la motivation d'aller jusqu'au bout, si derrière, il n'y a pas le fait de dépasser de penser que tout ce qu'on fait, c'est nul, de penser que de toute façon, on ne peut pas publier parce que c'est bloqué et on n'y arrivera jamais, et ainsi de suite.
Donc pour toi, un auteur qui n'a pas confiance, qui n'a pas le bon mindset ou qui n'a pas une santé mentale optimale, peut difficilement réussir une carrière littéraire à long terme.
Alors, quelqu'un qui ne travaille pas sur lui, oui, ça va être compliqué parce que très vite, il va se laisser décourager. Dès qu'il aura un échec, et il en aura, et un échec peut prendre de multiples facettes, hein. C'est pas simplement un rejet d'éditeur, mais c'est simplement le fait qu'on va plus avoir envie d'écrire, par exemple, pendant 3 semaines, pendant 4 semaines. Une personne qui ne se rend pas compte que c'est important de travailler sur son mental et qui ne commence pas à se poser des questions sur qu'est-ce qui l'arrête et qu'est-ce qu'elle peut faire pour dépasser ça, elle va très vite s'arrêter en fait. Elle va très vite avoir l'impression que c'est pas possible pour elle, qu'elle est juste pas assez douée et ainsi de suite. Par contre, là où je ferai un petit... quand même un petit élan de positivisme et de motivation, c'est qu'il ne faut pas penser qu'on a besoin d'avoir réglé tous ces problèmes et toutes ces croyances limitantes pour pouvoir réussir. Non. J'ai une coach qui dit, alors je vais essayer de dire ça pas avec, en franglais, tu vois, mais en gros, elle dit avec un esprit à moitié géré, tu peux faire des miracles, en fait. Et c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'avoir complètement réglé ton perfectionnisme ou complètement réglé ton syndrome de l'imposteur pour réussir et faire une brillante carrière d'écrivain. C'est juste qu'il faut que tu commences à bosser dessus et que tu lâches pas l'affaire.
Et qu'on prenne conscience qu'on a ses soucis et qu'on fasse en sorte de travailler dessus.
Exactement.
Ouais, je comprends totalement parce que bah, comme à peu près tous les écrivains avec qui je discute, je suis perfectionniste, j'ai le syndrome de l'imposteur, je procrastine parce que j'ai peur de l'échec et du coup ça m'amène à des périodes de pages blanches. C'est pas mal, non, mais comme ça.
C'est bon, t'as le quinté dans l'ordre, nickel.
On est pas mal. Justement, bah, je reçois énormément de messages d'auteurs et d'autrices tous les jours. Que ça en devient même, enfin, je sais pas comment le gérer moi, parce que voilà, c'est pas mon métier, souffrant de la page blanche et demandant des solutions. Et bien sûr, on fait au mieux à chaque fois. Et j'en discute avec d'autres amis qui ont bah, des podcasts, des Insta, bah, pour aider les personnes. Mais toi, dans ce métier, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller?
Alors, on va tous avoir le même réflexe, qui est le réflexe humain, qui est de vouloir l'outil, en fait. On veut le comment, on veut la solution en trois étapes applicable très vite de comment est-ce que je règle un blocage, comment est-ce que je me débloque. Le problème, c'est que la toute première vraie étape, c'est de comprendre pourquoi on bloque. Et des fois, comprendre pourquoi on bloque, ça peut être d'avoir une clarification par rapport à son texte, c'est-à-dire que des fois, en effet, le blocage peut venir de son roman, peut venir de ce qu'on est en train de faire. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, on a travailler avec un plan, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais si on a travaillé avec un plan, en fait, on peut avoir complètement dévié et du coup, on n'est plus du tout raccord avec ce qu'on voulait faire et du coup, on a l'impression qu'on est que ce qu'on fait ne va plus avec notre idée de l'histoire avant. Bon, c'est un exemple comme un autre, mais tout ça pour dire que ça peut être quelque chose qui a à voir avec notre texte, mais ça peut être quelque chose qui a à voir aussi avec notre façon de voir notre écriture, notre façon de voir notre histoire, de penser qu'elle n'est pas assez originale, de penser qu'elle elle va pas plaire à notre public, etc. Ou même, des fois, ça peut être qu'il y a d'autres choses dans notre vie, parce qu'on fait pas que écrire. Des fois, on va à la fac, des fois, on travaille, des fois, on a des partiels, n'est-ce pas? Et du coup, il peut y avoir aussi d'autres facteurs qui font que notre esprit, il est un peu parasité par des choses qui nous travaillent et on ne va pas avoir la même, comment on peut dire, le même temps libre en fait à donner à notre projet d'écriture. Et c'est vraiment important de déjà un petit peu, même si on a l'impression qu'on est déjà en train de perdre du temps, de se dire, tu sais quoi, de toute façon, je ne vais pas y arriver en essayant de forcer le truc. Voilà. Faut pas toujours penser que le fait de se forcer à se remettre au travail va marcher. Des fois, il faut faire un pas de côté et il faut commencer par dire « Ok, c'est quoi le problème en fait ? C'est quoi vraiment le problème ? Si je creuse un tout petit peu, si je creuse au-delà de juste « j'ai pas envie » ou « ça me saoule » ou « ça me gonfle », c'est quoi le problème sous-jacent ? Pourquoi ça me saoule ? Pourquoi ça me gonfle ? Et si je peux donner peut-être un aspect aussi que je pense et un peu général, mais quand même ultra récurrent, c'est quelque chose que je dis souvent à nos élèves à l'ICAR. Un des cinq points principaux que je veux qu'ils retiennent de leur formation quand ils passent entre mes mains, c'est que souvent, quand il y a un problème de croyance, alors le mot, il est moins joli en français qu'en anglais, quand on parle de « belief », Believe, tu vois, I need to believe, plein de chansons comme ça. Mais c'est l'idée que souvent, à un moment, on arrête de croire que ça sert à quelque chose qu'on fait. Et là, ça, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure pour tout un tas de raisons, parce que ce qu'on fait, c'est pas assez original, parce que c'est pas assez. Qu'est-ce que ça peut être pas assez ? C'est pas assez bon. Voilà, on n'écrit pas assez bien. Et du coup, on a une pensée un peu générale comme ça qui est à quoi bon ? À quoi ça sert en fait ? Et tu n'arriveras jamais à rester motivé à faire un truc pour lequel tu penses que ça sert à rien en fait. Ton cerveau, il n'est pas bête, hein, il n'a pas envie de faire des trucs qui servent à rien. Donc si toi, à un moment, pour tout un tas de raisons, tu vois que tu as cette pensée un petit peu insidieuse du « ça sert à rien » ou « à quoi bon ?», c'est un signal d'alarme pour toi justement que c'est ça qu'il faut qu'il change. Que tant que tu continueras à penser que tu fais ça pour rien, que de toute façon ça ne va rien donner, que de toute façon ton texte il plaira à personne, tu n'arriveras pas à te motiver à écrire.
Ce message est d'utilité publique. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je suis tellement d'accord avec tout ce que tu dis, mais en même temps, c'est toi qui m'as tout appris, donc je ne peux rien dire.
Ce qui est bien, c'est que ça marche avec tout, hein. Ça marche avec ton roman. Mais moi, c'est exactement la même chose quand j'ai des trucs à faire pour l'ICAR et que je procrastine à fond et que je n'ai pas envie de faire ces choses pour l'ICAR. Généralement, il y a deux choses que je me dis. Soit c'est « Oh, c'est trop dur, j'ai pas envie de le faire », ou soit c'est « À quoi bon, ça sert à rien ». Et là, il faut que je me dise pourquoi je le faisais au départ, quoi. Comment est-ce que je peux me convaincre qu'en fait, ça sert à quelque chose ? Et si vraiment ça sert à rien, autant ne pas le faire.
C'est ça. Personnellement, je sais que quand j'ai des moments de page blanche, c'est soit comme tu le dis, parce que l'histoire que je suis en train d'écrire ne correspond pas avec finalement ce que je veux faire vraiment. Et ça m'est arrivé pendant 3 mois, il y a 2 ans, où je me suis rendu compte, après 3 mois de blocage, que c'est parce que j'écrivais une histoire avec un seul personnage narrateur et qu'il m'en fallait 7. Et ça m'a mis 3 mois pour le comprendre, parce qu'il y avait un vrai problème. Ou alors, parce que j'ai l'impression que je n'arriverai pas à retranscrire aussi bien ce que j'ai imaginé dans le papier. Ouais. Mais si on n'essaye pas, on ne le saura jamais, en fait. Donc, c'est là où c'est important de se forcer. Mais en même temps, j'ai une autre question par rapport au fait de se forcer. Et je trouve cette question vraiment primordiale, surtout en ce début d'année 2022. On voit passer beaucoup, beaucoup de posts sur les bonnes résolutions, les objectifs parfois très ambitieux que prennent les autres. Et je me compte là-dedans parce que malheureusement, je ne sais pas faire de petits objectifs et ce n'est pas très bien. Et sur la motivation à avoir à écrire tous les jours de l'année. Et même quand on n'en a pas envie. Pour toi, est-ce que se forcer à écrire, mais vraiment aller au-delà de la fatigue, à écrire tous les jours malgré des emplois du temps compliqués, c'est une bonne chose ou ça peut finir par devenir contre-productif ?
Alors, je vais avoir une réponse qui va peut-être aller dans le sens contraire de ce que je viens de dire avant. Je pense que se forcer à écrire, oui, ça peut être une bonne chose, parce que tu vas être dans une logique, de discipline, en fait. Tu vas t'apprendre la discipline qui va être tout à fait nécessaire pour former ce qu'on appelle une habitude. Tu veux en fait que l'écriture devienne une habitude. Pourquoi ? Parce que tu veux pouvoir écrire, que tu aies envie d'écrire ou pas envie. Et quand on dit envie ou pas envie, c'est pas quand tu as des idées ou pas des idées, mais c'est quand tu as toutes ces pensées limitantes qui viennent un petit peu te saboter, qui viennent dans ta tête, quand tu as plein de distractions qui pourraient prendre le pas sur l'écriture, et que pourtant tu avais un projet qui était d'écrire ton roman, et que le problème c'est que si tu ne crées pas cette habitude, cette discipline, c'est pas que tu vas pas aller au bout de ton projet, parce qu'on pourrait se dire que tu vas aller au bout de ton projet en bien plus longtemps. Le problème de prendre tant d'années, par exemple, à écrire un roman. Moi, j'ai des personnes qui nous contactent et qui me disent qu'elles sont sur leur projet de roman depuis 5, 6, 7, 8 ans. C'est que tu as vraiment un risque que ça aboutisse pas. Tu as vraiment un risque que plus tu accordes du temps à quelque chose, plus ce temps se dilate à l'infini, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a, cette discipline qu'on essaye d'instruire à l'ICAR, qui est de te forcer, je mets des guillemets, des air quotes, là, hop, que te forcer à écrire même quand tu n'as pas envie d'écrire. Là où je vais peut-être quand même rassurer un peu les gens, c'est que je ne pense pas que tu as besoin d'écrire tous les jours, toute l'année, pour arriver à tes fins et pour avoir cette discipline, en fait. Je pense que c'est important d'avoir de la répétition, parce que sinon, ça sera trop facile justement d'un peu lâcher prise et de pas faire autant que tu pourrais faire. Il faut reconnaître un peu notre potentiel. On a tous le potentiel d'écrire, d'avoir la discipline de faire plus qu'une seule séance d'écriture par semaine, par exemple. Je suis convaincue qu'on est tous capables d'écrire au moins 2 ou 3 fois par semaine. Donc, Donc, une fois qu'on a dit ça, oui, c'est mieux d'écrire tous les jours parce que ça va cimenter encore plus cette discipline et cette habitude d'écriture. Oui, c'est mieux dans le sens où statistiquement, si tu écris tous les jours, tu vas finir ton roman vachement plus tôt que si tu écris une ou deux fois par semaine. Mais je pense que c'est inutile, en fait. Et surtout, on va dire que c'est pas... Ce qui m'embêterait dans cette idée-là, c'est que souvent les gens qui veulent écrire tous les jours de l'année, c'est des gens qui n'écrivent déjà pas deux à trois fois dans la semaine de manière régulière, en fait. Et le problème n'est pas tant de vouloir écrire tous les jours de l'année, c'est de vouloir passer de 0 à 100 tout de suite. C'est de vouloir passer les bonnes résolutions, hein, de « je ne vais jamais à la salle de sport, ça me gonfle, j'aime pas ça », tout ça, à « je vais y aller tous les jours, en fait, même le dimanche, pendant 2 heures ». Parce que d'un coup, j'ai revu des photos de mannequins sur Instagram et je me suis dit qu'il fallait absolument que je sois comme ça d'ici l'été. C'est un peu ça le problème, c'est de vouloir passer de 0 à 100 tout de suite. Et moi, je conseille vraiment... plutôt un concept que j'apprends à nos élèves, qui est le concept de minimum syndical. C'est quoi le minimum de répétition que tu pourrais faire, de nombre de séances d'écriture que tu pourrais faire dans ta semaine, qui te challengerait quand même un peu, donc comme on disait, on va dire pas une, on va dire au minimum deux, trois, mais qui serait beaucoup plus simple pour toi de tenir. Voilà, où tu pourrais te dire... Cette fois dans la semaine, bon, c'est quand même un peu ambitieux. Peut-être que je peux le tenir pendant un mois, mais je suis pas convaincue de pouvoir faire bien plus. Mais par contre, si je te dis de faire 3 séances d'écriture, mais de vraiment les faire et de t'y astreindre, c'est-à-dire que si justement il y en a une que tu ne ferais pas parce que tes copains t'inviteraient à aller boire un coup et que quand même, ce serait bien d'aller avec eux et d'avoir un peu de vie sociale, tu pourrais facilement en fait reporter cette séance d'écriture et la faire dans la semaine. Tu vois, c'est ce que j'explique à nos élèves, c'est de pas se mettre dans une situation d'échec et surtout de pas se mettre dans une situation d'échec en continu. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas forcément pour de tout de suite avoir l'ambition d'écrire tous les jours si c'est une habitude que tu n'as jamais eue. Après, ce que je dis aussi, parce que je me contredis beaucoup, c'est test. Ça, tu vas faire quoi ? Ça ne peut pas te faire de mal que de tester pendant une semaine ou 15 jours pour voir ce que ça fait que d'écrire tous les jours et de voir qu'est-ce que tu devrais mettre en place, quel compromis tu devrais faire dans ton quotidien si tu voulais faire 6 séances d'écriture par semaine, par exemple. Ça serait un beau challenge, les challenges 30 jours. J'écris 30 jours tous les jours, c'est ça ?
C'est un peu les trucs des abdos, mais version écriture.
Mais version nano-brimo, voilà. Donc, si je dois un petit peu résumer, parce que je suis partie dans tous les sens, je pense que oui, c'est utile d'essayer de se construire une discipline et une habitude d'écriture. Et comment on va faire ça ? Ben justement, en travaillant sur son mental, en travaillant sur tous les obstacles qui peuvent venir se mettre devant toi et cette habitude. Ça va être très important. Peut-être qu'il va y avoir plein de fois où tu ne vas pas réussir à tenir ton habitude, mais le but, ça ne sera pas juste de te dire « ben, c'est pas possible pour moi », c'est de comprendre pourquoi tu n'y arrives pas. Et dans un même temps, plutôt que de vouloir tout de suite partir sur « j'écris tous les jours parce que tous les grands écrivains écrivent tous les jours et c'est comme ça qu'il faut faire pour réussir », se dire « j'ai le droit d'y aller progressivement en fait ». Mais par contre, je tiens mon engagement envers moi-même. Donc quel est le challenge que je peux me donner ? Est-ce que c'est 2 jours ? Est-ce que c'est 3 jours ? Est-ce que c'est 4 séances d'écriture dans la semaine qui me permet de tenir cet engagement envers moi-même, sachant que j'ai le droit de faire des tests. Et j'ai le droit d'en faire plus des fois si j'y arrive. J'ai le droit aussi de me dire qu'il y a des semaines où il y aura les partiels, où il y aura les fêtes de Noël avec mes parents et j'ai le droit d'en faire moins. Bref, j'ai le droit d'être flexible aussi. Mais l'important, ce serait de pas casser mon habitude, c'est-à-dire de ne pas me retrouver à avoir des mois entiers où je n'écris pas, surtout quand je suis en phase de premier jet, quand je suis en phase de j'ai mon idée d'histoire et je veux y aller, quoi.
J'aime beaucoup. Je valide.
Ça te plaît ? Tu valides ?
Bon, ça va. Je valide.
Ça va. Si Margot valide, ça va.
Et tu vois, j'avais fait un épisode par rapport à écrire un roman en 2022 et je sens que j'ai fait un bac S parce que j'avais pas réfléchi de la même manière que toi, mais ça donnait le même résultat. Si vous voulez aller écouter cet épisode, n'hésitez pas. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est, en gros, j'ai expliqué aux gens comment calculer le temps qu'il leur faudrait pour écrire un roman en fonction du nombre de séances qu'ils font dans la semaine du nombre de mots qu'ils écrivent en moyenne par séance. Et après, ça va être de voir, en fonction de leur objectif, que ce soit de temps, dans le long terme, de savoir s'ils veulent écrire un roman en 3 mois ou en 6 mois ou en 2 ans, ou alors en fonction du temps qu'ils ont disponible dans la semaine, pour voir voilà, combien de temps ça met pour écrire un roman.
Mais... Je valide tout à fait ta démarche aussi. Moi, j'appelle ça la technique du rétro-planning, en fait. Et tu as tout à fait raison. C'est vraiment quelque chose qui est super intéressant de faire. Et notamment pour se rendre compte, en fait. Mettre un peu d'objectivité là-dedans. Et justement, quand les gens se disent « Oh, je ne sais pas s'il me faudra 3 mois ou 6 mois ou 3 ans pour écrire mon roman », ta technique, elle permet d'avoir une donnée objective, en fait. Et comme tu dis très, très justement, après, à toi de voir si c'est j'allais dire logique, mais ce n'est pas le mot que je veux dire, si c'est tenable, en fait, pour toi ou pas.
Oui, c'est ça. Parce que, voilà, de dire, OK, je sais que j'écris 1000 mots chaque séance d'une heure. J'ai 3 jours dans la semaine où je suis dispo, donc 3000 mots par semaine. Et donc, ça correspond à un chapitre parce que mes chapitres font en moyenne 3000 mots. Et puis, voilà, après, ça se calcule. Mais après, je sais que je parle à une communauté littéraire qui n'aime pas les maths. Excusez-moi. Mais...
Ouais, moi, je leur fais faire des plannings, hein, donc t'inquiète.
Ils vont finir par nous détester. Mais c'est pour votre bien. Je vous promets que c'est pour votre bien. En parlant de tout ça, on continue parce que tout à l'heure, je t'ai cité les 5 grands syndromes du blocage d'écrivain. On en a fait 3 et j'aimerais avancer sur un des plus compliqués à gérer. En France, beaucoup d'écrivains souffrent du syndrome de l'imposteur, notamment parce que l'auto-édition est encore très mal vue dans le milieu de l'édition, mais aussi avant même d'être édité, parce qu'ils n'ont pas de diplôme et pouvoir officialiser leur statut d'auteur, là où n'importe quelle profession peut afficher dans son bureau le diplôme, leur accordant le droit d'exercer leur métier. Et que voudrais-tu dire à toutes ces personnes qui se sentent auteurs, qui écrivent depuis qu'ils ont 10 ans, mais qui n'osent pas se présenter comme un auteur ?
C'est un super sujet, une super question, et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que justement ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve qu'il y ait tant de personnes qui n'osent pas se lancer à cause de ce syndrome de l'imposteur, et ça me fait penser à un message Instagram que j'ai reçu mais aujourd'hui, d'une jeune fille qui me disait « Quelle étude est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir auteur ?» Et j'ai trouvé ça super mignon parce qu'il y avait cette idée justement que « Ah, est-ce qu'il faudrait que je fasse des études de lettres ? Si je n'ai pas fait un cursus littéraire, ça veut dire que je n'ai pas la légitimité à écrire un livre, que je n'aurai pas les bases, alors que ça n'a rien à voir. » Alors que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand j'ai fait la longue introduction sur pourquoi l'ICARE, les études de lettres, elles ne vous apprennent pas du tout à être auteur. Hein. Et il faut bien vous rendre compte qu'il y a tous les profils qui existent dans le monde sur le métier d'auteur. Et en France, c'est exactement la même chose que partout ailleurs. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui n'ont fait aucune étude, qui sont devenues auteurs, des personnes qui sont complètement autodidactes, et qui un jour ont eu cette pulsion de l'écriture, parce que l'écriture c'est un mode d'expression, en fait, rien de plus, rien de moins, c'est un mode d'expression artistique, c'est un mode d'expression intellectuelle, c'est un mode d'expression de votre pensée, et ça n'a pas besoin d'être plus que ça pour que vous soyez un auteur, déjà, à la base. Donc voilà, donc il n'y a pas de métier qui va vous donner de légitimité plus qu'un autre pour être auteur. Il y a énormément de scientifiques qui écrivent de la fiction, il y a énormément de marketeurs qui écrivent de la fiction, il y a énormément de littéraires aussi, de gens qui aiment le milieu de la culture qui écrivent de la fiction. Il faut vraiment vous rassurer sur la réalité des choses. Voilà, on va déjà reprendre un peu les choses factuellement, de manière factuelle. Il n'y a pas de cursus qui est meilleur qu'un autre pour devenir écrivain. Bon, évidemment, venez à l'ICARE, venez faire notre formation, ça sera ça de prix, voilà. Mais sinon, d'une manière générale, sur le métier d'auteur, il n'y a pas un cursus universitaire pour ça. Donc ça, c'est une première chose. Après, comme tu l'as dit très justement, les gens font la différence dans leur tête, je parle des auteurs eux-mêmes, entre les maisons d'édition et entre le fait d'être auteur indépendant. Et là aussi où je vais remettre un petit peu de on va dire, de perspective et de factuel par rapport au discours qu'on peut avoir quand on pense que les éditeurs, ils n'aiment pas les auto-éditer et que les éditeurs, ils voient l'auto-édition d'un très très mauvais œil. Je ne dis pas qu'au fin fond de, ça peut être quoi, aller Actes Sud ou les éditions de minuit, enfin des maisons très 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 prestigieuses et très 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 axées sur la littérature blanche, il n'y a pas encore des personnes qui vont vous regarder avec un air dédaigneux si vous parlez d'auto-édition, mais d'une manière générale, je veux vous rassurer, il y a vraiment eu un gros changement ces dernières années sur la perception des éditeurs, des auteurs auto-édités. Il y a beaucoup d'éditeurs qui viennent chercher, qui viennent démarcher des auteurs édités qui marchent bien. Il y a encore pas si longtemps que ça, il y a encore quelques années, même à l'ICAR, on avait ce discours de dire « si vous avez publié en auto-édition, votre texte, il sera plus valable, entre guillemets, pour une maison d'édition parce que les maisons d'édition, elles veulent forcément des originaux. Elles ne voudront pas republier votre texte qui a été auto-édité. C'est plus du tout vrai. Maintenant, les éditeurs, ils republient des textes qui ont été auto-édités. Maintenant, les éditeurs, ils vont faire leur marché parmi les auteurs auto-édités et leurs textes. Donc, vous voyez déjà, ça a vraiment changé. Il faut vous voir que factuellement, en tout cas dans le monde du livre, il y a une évolution. Alors, je ne dis pas qu'elle est toute rose, que tout le monde va vous ouvrir grand ses bras. Malheureusement, il faut que cette évolution, elle continue à se faire. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais n'ayez pas peur, il y a quand même beaucoup d'éditeurs et des grands éditeurs qui sont juste réalistes, en fait. Ils voient bien les changements qui se font depuis des années dans le monde de l'édition. Ils voient bien les talents qu'il y a parmi les auteurs auto-édités et les succès qu'il y a aussi. N'oubliez pas, les maisons d'édition, c'est un peu des entreprises. Hein. Avant d'être, c'est pas des œuvres de charité qui aiment les livres et qui sont là juste pour la transmission de la culture et des belles lettres. Hein. Ils sont aussi là pour faire un petit peu de l'argent, un petit peu. Et du coup, ils voient bien en fait ce changement-là. Donc ça, c'était un premier élément de réponse, un petit peu sur le fait que factuellement, cette impression que vous pouvez avoir qu'il faut une légitimité qui passe par un diplôme ou qu'il y a une légitimité qui est plus reconnue pour des auteurs en maison d'édition que des auteurs auto-édités, alors dans un cas c'est complètement faux pour les diplômes et dans l'autre cas ça change vraiment pour l'auto-édition. Tu veux interjecter ou est-ce que je continue?
Ouais, t'écoute avec beaucoup, beaucoup de ferveur.
Vous voyez, j'essaye de lui laisser un peu la parole. Hein. J'essaye.
Non, je te laisse parler. Tu es si bien partie, vraiment.
Mais voilà, au niveau du syndrome de l'imposteur, et si je reste un petit peu du côté des auteurs indépendants, parce que c'est pas qu'avec eux hein, que je travaille, vous seriez tous surpris, vous qui êtes auteurs indépendants et qui avez ce syndrome de l'imposteur, combien il y a d'auteurs qui veulent publier en maison d'édition traditionnelle ou qui ont déjà publié en maison d'édition traditionnelle et qui ont encore le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que oui, d'accord, j'ai publié, mais c'est une toute petite maison d'édition, donc en fait, c'est pas une vraie, tu vois, ça vaut pas comme si j'avais été publié chez Flammarion, Hachette ou je ne sais qui, voilà. Ou alors oui, mais en même temps, j'ai fait que 2000 ventes ou que 800 ventes, donc ça veut rien dire. Ou oui, ce premier roman il a marché, mais peut-être que mon autre roman marchera pas. Bon, bref. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on est en maison d'édition que tous nos problèmes sont réglés si on n'a pas commencé ce travail sur nous-mêmes en amont. Et pour les auteurs indépendants, c'est vraiment déjà de vous dire que c'est normal que vous ayez ces problèmes de légitimité parce que tout la légitimation de l'auteur pendant des décennies, des siècles, ça s'est fait par les éditeurs, par les maisons d'édition. C'est comme ça que le système, il était créé. C'est-à-dire que la personne qui faisait de vous un auteur, c'était l'éditeur qui vous publiait. Donc ça c'était vrai jusqu'à, on va dire, le mi-19e, quoi. il y a toujours eu des auteurs auto-édités. Vous faites partie de la, des personnes de cette longue tradition de l'auto-édition. Hein. C'est pas, ça date pas du XXe siècle. Mais disons que jusqu'à très récemment, ce qui faisait la légitimité d'un auteur, historiquement et socialement, c'était la maison d'édition. Et là, arrive le boom de l'auto-édition. Arrive Internet aussi, et surtout. Et ce boom, justement, de l'auto-édition, qui a vraiment renversé et donné un grand coup de pied à cette idée-là que c'est quelqu'un d'autre que vous qui dit que vous avez le droit d'être auteur et qui dit que votre texte vaut quelque chose. Et là où je travaille avec les auteurs, c'est vraiment de vous questionner sur qu'est-ce que c'est un auteur pour vous. Est-ce que c'est d'abord une personne où quelqu'un d'autre lui dit je dis que tu es auteur, donc tu es auteur. Ou est-ce qu'à un moment, c'est pas aussi vous-même, votre passion, votre ambition et votre travail personnel qui a de la valeur et qui fait que vous avez le droit, en fait. Vous avez le droit de proposer quelque chose à des personnes et de partager votre expérience, alors artistique, intellectuelle, tout ce que vous voulez, avec d'autres personnes. Il y a vraiment ce shift à faire, ce mouvement à faire dans votre tête de... quelqu'un me valide, quelqu'un me dit qui je suis, ah, moi, en fait, je prends la responsabilité de qui je veux être et de ce que je propose. Et alors, pour vous aider dans cette démarche-là, le concept que je développe dans la formation Devenir écrivain, c'est le concept de posture professionnelle. C'est-à-dire que ce qui va vraiment vous aider à affirmer cette légitimité, c'est d'avoir cette posture d'auteur professionnel. D'agir tous les jours dans la façon dont vous répondez à l'appel de la séance d'écriture, même si Netflix vous dit « viens regarder, je regardais Cobra Kai à midi ». Je ne sais pas si vous connaissez cette superbe série. Bref, de la suite de Karate Kid en série, je vous la conseille. Même si Netflix vous appelle, même si vos potes vous appellent, Vous avez votre engagement envers vous-même qui était de faire ces 3 séances d'écriture dans cette semaine. Voilà, posture professionnelle, je tiens mon engagement envers moi-même par rapport à mon écriture. Posture professionnelle, je vais proposer à mes lecteurs le livre le plus pro possible. C'est-à-dire que non seulement je vais faire attention à comment je l'écris, mais je vais faire un travail de correction qui va être très abouti. Je vais leur proposer une couverture qui va déchirer. Je vais leur proposer un titre qui va répondre au genre dans lequel ils écrivent ou j'écris et qui va déchirer aussi. Bref, je vais leur proposer une expérience de lecture qui vaudra bien tous les livres qu'on verra en maison d'édition. Et ce qui peut aussi toujours rassurer justement les auteurs auto-édités, c'est de pas fantasmer sur la qualité des maisons d'édition pas fantasmer sur la qualité de ce qui est proposé en maison d'édition. Par exemple, souvent, ils pensent que ils seront jamais capables de faire aussi bien qu'un livre qui est publié chez un éditeur. Je vous rassure, hein, il y a des livres publiés chez des éditeurs qui ont plein de coquilles parce que le travail de correction, il n'a pas été fait correctement. Alors oui, ce n'est pas des bons éditeurs s'ils font ça, mais malheureusement, il y a des pas bons éditeurs. Il y a des livres où l'éditeur, il se plante sur la couverture et c'est un problème parce qu'au niveau après des ventes du roman, c'est pas bon. Et ainsi de suite, en fait. Alors évidemment, il y a énormément de très bons éditeurs, mais ce que je veux dire, c'est que il faut vous faire confiance dans votre capacité à faire tout ce que vous pouvez faire pour proposer une expérience professionnelle à votre lectorat. Et si vous faites ça, vous faites le boulot en fait, qui est attendu d'un auteur professionnel et vous avez plus de légitimité que personne d'autre à être un auteur professionnel.
Tout à fait. Et puis, au-delà encore de l'édition, personnellement, le premier pas que j'ai fait pour vaincre mon syndrome de l'imposteur, ça a été de mettre dans ma bio Instagram autrice de oui. SSF, donc autrice de science-fiction fantastique, pas encore publiée. Donc, c'est-à-dire autrice, même si pas encore publiée. Et oui. Que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition. Et c'est... déjà, vous pouvez le faire si vous avez des réseaux sociaux, de vous présenter sur vos réseaux sociaux comme un auteur. Et si, comme moi, ça vous rassure de mettre juste après pas encore publié ou pas encore édité, faites-le, mais au moins vous vous présentez tel quel déjà comme un auteur. Et c'est important, je pense. T'en penses quoi, toi, Joanne?
Je trouve que c'est génial. Et je suis tellement, tellement contente que tu aies fait ça pour toi et puis pour tous les gens que tu représentes et à qui tu parles, à ta communauté, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Il faut incarner, en fait, qui on veut être. Et je pense que c'est tout simplement, ça se résume à se donner le droit, se donner la permission. Se donner la permission de vouloir quelque chose. Pourquoi est-ce que tu aurais moins de légitimité ou tu aurais moins le droit qu'une autre de vouloir être auteur, en fait? Alors, évidemment, peut-être qu'il y aura dans tes abonnés, il y aura des gens qui vont avoir une réponse à cette question et là, ils viendront me voir et on va coacher là-dessus.
Mais justement, vous pouvez aller débattre avec Joanna.
Mais justement, c'est la première chose à vous dire. C'est finalement, j'ai le droit, j'ai la permission de vouloir être un auteur. Il n'y a rien qui m'interdit à rêver de l'être, à vouloir l'être et à l'incarner. Et Margot a tout à fait raison. Suivez son conseil, c'est un excellent conseil. Incarnez-le dès maintenant. Vivez dans cette énergie dès maintenant. Qu'est-ce que ça serait la prochaine fois que vous vous présentez à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Il ne vous connaît pas, hein, donc il ne va pas pouvoir vous juger. Hein, voilà. Dites-lui bonjour. Bonjour, je suis Margot et je suis auteur. Ou mettez votre prénom à la place. Mais...
oui, ne vous appelez pas forcément Margot. tout ce qu'on a évoqué précédemment amène au dernier des Big Five, des blocages des auteurs. C'est parfois la peur terrible de se lancer, donc que ce soit dans l'écriture, dans l'édition, dans la promotion de son roman sur les réseaux. La peur de l'échec, elle est trop forte. Elle est trop importante. Est-ce qu'on passe tous par là, finalement?
Oui, on passe tous par là, parce que c'est l'expérience humaine, évidemment. C'est la peur de l'échec, c'est de... Je pense que non seulement c'est la psychologie humaine, d'une manière générale, qui est comme ça, et puis c'est aussi dans notre culture francophone, je vais dire peut-être un petit peu moins canadienne, encore, je ne suis pas sûre, de voir l'échec comme la fin, en fait, comme la fin de l'aventure. Si c'est soit tu gagnes, soit tu perds, et si tu perds, tu ne te relèves pas, enfin c'est fini pour toi. Et ça, c'est vraiment la première raison qui fait, en effet, tu as raison de le souligner, qu'on perd nos rêves et on ne va pas au bout de nos rêves. Et là, moi, ce que je conseille toujours, le premier conseil que je donne à nos élèves, c'est de dédramatiser l'échec. Il va falloir que tu fasses le scénario catastrophe. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette partie-là de mon cours, mais ce que je...
Je le fais très souvent, d'ailleurs.
C'est de te dire, OK, allez, allons-y. Admettons que je sois rejetée par les trois éditeurs à qui j'ai envoyé mon roman. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui fait que ce serait insupportable pour moi et qui ferait que je ne me relèverais pas de ça? Voilà. Ça, je dis souvent, on dramatise l'échec, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la déception serait tellement grande, que la douleur serait tellement grande, que ça briserait quelque chose en nous et ça ferait qu'on ne pourrait jamais arriver à notre but. Alors qu'en fait, par exemple, si... Je reprends mon exemple où l'échec, c'est de ne pas pouvoir publier. Voilà, on n'a pas pu publier parce que l'éditeur a dit non. En même temps, si tu ne proposes jamais ton texte et que tu ne le proposes jamais à des éditeurs ou que tu ne publies pas toi-même, tu es au même point, en fait. La douleur, elle est déjà là. Ton texte, il n'est pas partagé avec le monde. Donc, en fait, souvent, non seulement on dramatise l'échec, c'est-à-dire que non, on est beaucoup plus résilient qu'on pense et on ne sera pas brisé, et on va pas mourir de cette déception, peu importe ce que notre cerveau nous en dit. Mais en plus, on s'interdit la possibilité que ça marche. Parce que c'est ça aussi. C'est souvent de voir, comme nous tous, le verre à moitié vide. Mais et si, en fait, et si ça marchait? Donc voilà, d'aller jusqu'au bout du scénario catastrophe, de se dire, OK, admettons que personne ne veut de mon roman, qu'est-ce qui se passe, justement? Et c'est là où je vais ouvrir mon imagination, ou en tout cas mon intelligence, et me dire, bah voilà ce que je vais faire si ça marche pas. Voilà ce que je vais faire. Je vais proposer à 3 autres maisons d'édition. Je vais revoir mon texte peut-être. Je vais interroger ces éditeurs qui m'ont dit non pour essayer d'arracher plus qu'une lettre de refus classique de leur part et qui me disent ce qui n'allait pas. Je vais peut-être sérieusement me pencher sur l'auto-édition et ainsi de suite. Ça peut être plein de choses qui restent à faire, même quand on a cette vision-là que l'échec, ça veut dire la fin, c'est jamais la fin. Tu sais bien la citation qui est la fin, c'est juste quand tu abandonnes, en fait.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est-à-dire, c'est une citation que je vais très mal citer parce que je ne l'ai pas du tout en tête, mais la vie, c'est comme une bicyclette. Je crois que c'est à Einstein, et en fait, on tombe le moment où on s'arrête de pédaler, tout simplement. Ouais. je l'ai très mal citée. Elle est beaucoup mieux, en vrai. Allez la lire. Mais c'est exactement ça, en fait. On échoue au moment où on abandonne. Et on est 100% sûr d'échouer quand on ne tente pas. Et je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis, du coup.
Et du coup, évidemment, petit à petit, d'arriver à changer son schéma de pensée, toujours mon histoire hein, des pensées, tout ça, je suis coach, hein. Voilà. Et du coup, de ne plus voir les échecs comme des traumatismes et comme des fins à quelque chose, mais comme des leçons, en fait, qui vont nous permettre de réajuster et d'avancer. Ça, là aussi, hein, si vous vous destinez à l'édition indépendante, que vous voulez être auteur auto-édité, vous allez beaucoup, beaucoup apprendre de modes de pensée qui sont aussi de l'entrepreneuriat, tout simplement, pas simplement de l'écriture, mais vraiment de tout ce que vous allez faire en devenant un chef d'entreprise ou en tout cas quelqu'un qui va se lancer dans une entreprise, celle de écrire et publier votre livre. Et il y a vraiment cette idée dans l'entrepreneuriat qui est que plus tu échoues, plus ta chance de gagner augmente, en fait. Parce que plus tu échoues, ça veut dire plus tu vois tous les chemins qui sont pas les bons. Et donc, tu réorientes jusqu'à trouver le bon. L'idée, c'est que on voudrait tous trouver le bon chemin du premier coup, la bonne façon de faire du premier coup, pour ne jamais se confronter à la déception et à la douleur, en fait. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, si on veut avoir le meilleur roman possible et la meilleure stratégie de promotion de son roman possible après, il faut faire toutes les conneries. On a le droit de dire des gros mots sur ton podcast.
Le droit. Franchement, moi, je me lâche de temps en temps. Il n'y a pas de problème.
on va faire toutes les bêtises et les conneries possibles et imaginables avant d'arriver à savoir ce qui marche. Et c'est en faisant ces erreurs-là qu'on les refera plus et qu'on va continuer à apprendre. Cette idée que l'échec t'apporte une leçon, t'apporte une redirection et que tu vas faire de mieux en mieux et arriver vraiment à la, comment on peut dire, à la façon de faire optimale pour toi, pour ton projet. Donc l'échec est super important. C'est en vous plantant que non seulement vous allez trouver la meilleure méthode qui marche pour vous, et aussi que vous allez gagner en résilience par rapport à la déception et par rapport à ce que vous ressentez comme une douleur. Et là, mon petit côté coach qui ressort, ma coach à moi dit toujours que le pire qui peut vous arriver, c'est de ressentir une émotion négative, en fait. Et c'est vrai finalement. Le pire qui peut t'arriver, si un éditeur il te dit non, alors on est d'accord, ton roman il sera pas encore publié alors que tu aurais aimé que ça y est, ça s'enclenche et que l'aventure passe à un autre cran. Mais hormis ça, le pire qui peut t'arriver, c'est de ressentir de la déception et de la, de la démotivation. Bien sûr. Si tu sais gérer la déception et la démotivation, si tu n'as plus peur de ressentir la déception et la démotivation, rien ne va t'arrêter.
Bien sûr, tu as le droit de prendre 2 jours pour pleurer dans ton lit. Ça bien fait sûr. Toujours du bien. Mais après, il faut se relancer.
C'est ça. Après, il faut se dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris et surtout, qu'est-ce que je peux faire c'est quoi mon plan B maintenant?
Exactement. Vraiment, j'espère que toutes les personnes qui t'ont découvert avec ce podcast ont été convaincues que tu es une super coach littéraire. Parce que en plus de l'ICAR, où tu fais tout ce que tu fais, tu vas bientôt ouvrir un coaching individuel, j'ai vu ça, je me suis baladée, et sur ton site. Et en quoi ça va consister? Tu vas faire la même chose que ce que tu proposes à l'ICAR en coaching individuel?
Alors, pour l'instant, je vais me concentrer sur la communauté des auteurs l'ICAR. C'est-à-dire que En effet, j'ai beaucoup hésité à avoir un, on va dire un cabinet, même si ce n'est pas vraiment le mot pour un coach, mais bon, bref, avoir mon propre cabinet de coaching à côté de l'ICAR et de notre formation Devenir écrivain. Et au final, je ne veux pas faire ça pour vraiment me concentrer sur nos élèves. On a à peu près maintenant des promos de 70 personnes par session. Et on fait 3 sessions de formation dans l'année. Donc, on a vraiment un pool d'élèves que je veux continuer d'épauler, de suivre. Comme on dit toujours à l'ICAR, on fait le service après-vente, c'est-à-dire que l'aventure ne s'arrête pas juste au bout des 8 semaines de formation. Et donc, ça sera pour donner plus de disponibilité individuelle à nos élèves, surtout que je ne fais plus de coaching individuel pour les élèves. C'est-à-dire, pour les premières sessions de formation, les premiers élèves qu'on a eus, je faisais... pour chacun, en fait, une demi-heure à une heure d'intervention individuelle. On s'appelait, on se parlait par Skype, par téléphone, et on voyait ensemble comment dénouer un certain nombre de problèmes et comment gérer leur planning. Ça, c'est plus quelque chose que je fais de manière individuelle avec les élèves, mais c'est quelque chose que je veux continuer à offrir pour les personnes qui sont passées par la formation. Donc voilà, donc ça sera... Ce sera la suite pour moi. Qui sait, peut-être que j'ouvrirai après au plus grand nombre si j'arrive à avoir un petit peu moins de tâches couteau suisse dans l'Institut des carrières littéraires. Je ne perds pas espoir de pouvoir offrir du coaching et pas seulement à des auteurs, en fait, parce que ça m'intéresserait de m'ouvrir aux entrepreneurs d'une manière générale. Mais pour l'instant... dans le futur très proche, ça sera, je suis réservée à nos élèves, même si évidemment, si quelqu'un a une question, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, c'est le mail où vous pouvez m'avoir le plus facilement, c'est contact@licares.fr, donc L-I-C-A-R-E-S, ou vous l'avez compris, c'est moi qui gère l'Instagram de l'ICAR. Donc, faites-moi un petit message privé et avec plaisir de voir avec vous comment on peut débloquer quelque chose s'il y a un blocage qui ne passe pas.
Exactement, pas à pas, et la suite on verra. Et on arrive à la fin de cet épisode parce que regarde, ça fait presque une heure qu'on discute comme ça.
Je parle beaucoup, je sais.
Non, t'inquiète pas, moi j'adore les épisodes d'une heure, les interviews.
Parce que je sais pas si ta communauté, dites à Margot si vous aimez les épisodes d'une heure ou si elle veut prendre des intervenants qui parlent.
J'avoue, ils aiment ça. Que des intervenants qui parlent beaucoup. Mais sache qu'ils aiment ça parce que je reçois des messages tous les jours de personnes qui me disent qu'elles écoutent ça au travail. C'est pas très bien, mais j'adore que vous fassiez ça et que vous me préveniez. et que cela occupe leur matinée. Et donc, c'est encore mieux les interviews d'une heure. Si tu devenais... Oula, devenais, plutôt devais. Si tu devais donner compte... Je sens que ça fait vraiment une heure qu'on discute parce que je n'arrive plus à poser mes questions alors que c'est pourtant toi qui parles beaucoup. Si tu devais donner 3 conseils à un auteur qui doute de lui-même et de son travail pour vraiment terminer cette interview, que lui dirais-tu ?
Alors, 3 conseils à un auteur qui doute de lui-même. Je pense que le premier conseil, ça serait le mantra que je veux que... Si tu ne dois retenir qu'un seul mantra de cet épisode, ça sera celui-là. Même un roman imparfait peut plaire à un lecteur. Voilà. C'est de vraiment perdre cette idée qu'il y a un niveau de perfection à atteindre pour faire un bon roman. Et parce que dans ta tête, un bon roman, c'est un roman qui fait l'unanimité, qui a aucune faute, qui a aucun défaut, qui est absolument parfait. Et je veux vraiment que tu sois convaincu que, surtout si c'est ton premier roman, surtout si c'est la première fois que tu vas jusqu'au bout d'un projet d'écriture, ton roman, il sera pas parfait. T'inquiète pas, je vais te motiver. Hein, là, c'est pas ton roman, il ne sera pas parfait. Évidemment qu'il y aura des lacunes, que ce soit, je sais pas moi, dans la structure, ou que ce soit, il y aura peut-être un personnage qui sera un petit peu moins développé que les autres, et ainsi de suite. Bref, c'est normal que ton roman, il soit pas nickel, qu'il soit pas parfait. Et dis-toi que même des auteurs qui ont écrit 10, 15, 20 romans, il y a des choses sur lesquelles on peut redire, on peut redire des choses sur certains aspects d'un roman d'un auteur. Et c'est pas grave, en fait, parce que même un roman imparfait peut être le roman favori d'un lecteur. Même un roman où un lecteur peut se dire, par exemple, tu sais, le début, c'était un peu poussif, il a fallu que je m'accroche, et les 50 premières pages, franchement, j'avais envie d'un peu de poser le livre. Mais après, Mais après, qu'est-ce que ça m'a plu? Qu'est-ce que je me suis éclatée? Oh, surtout, rien que pour ce personnage, rien que parce que ce personnage-là, il est génial, il faut que tu lises ce livre. Même toi, je suppose, auditeur de ce podcast, non, parce que je regarde Margot en même temps, donc ce n'était pas à toi spécialement que je m'adressais, mais même toi, je suis sûre qu'il y a des romans où tu te dis, bon, tu sais quoi, tout n'était pas génial, il y a vraiment des passages où j'ai sauté des pages, mais c'est quand même un roman que je conseille. Ça reste quand même un roman que je suis content d'avoir lu. Et du coup, voilà, ce mantra, il m'aide moi personnellement dans ma pratique d'écriture de me dire, même un roman imparfait, il peut plaire à un lecteur, il peut être le roman préféré d'un lecteur. Est-ce que tu te dis ça, Margot, pour...
Mais totalement. De toute façon, à chaque fois que je vois qu'un de mes romans préférés est critiqué quelque part, je fais pouf, ça veut dire que personne n'aimera le mien à 100%. Et c'est rassurant, en fait. C'est totalement rassurant.
Le deuxième conseil que je pourrais donner à un auteur qui doute de lui, et encore une fois, bon, j'ai beaucoup les auteurs débutants en tête, mais je sais qu'il y a des auteurs qui ont déjà un peu roulé leur bosse qui écoutent aussi ton podcast, c'est ne fais pas reposer toute ta carrière et toutes tes ambitions sur ton premier roman. Je sais que c'est dur. Parce que souvent, en plus, le premier roman, c'est un roman qu'on a dans sa tête depuis plusieurs années, qui cristallise un petit peu un imaginaire qu'on a peut-être depuis l'adolescence. Et du coup, il veut dire beaucoup de choses pour nous, ce roman. Il compte beaucoup pour nous. Alors, tous tes romans, ils vont compter pour soi. Mais le premier souvent, il a quelque chose. Et du coup, tu vas être tenté d'un peu focaliser sur ce premier roman. Et pour le fait qu'il faut absolument qu'il marche, sinon on en revient à l'échec, sinon c'est un échec complet pour toi parce que ça veut dire que ton imaginaire il plaît pas, ça veut dire que quelque part on te rejette toi en tant que personne, ce qui n'est jamais le cas. Ou alors justement tu risques de te dire mais si j'arrive pas à faire publier ce premier roman, ça veut dire que l'aventure elle s'arrête là quoi. Ça veut dire que mon objectif premier doit être de faire publier ce premier roman. Ne fais pas reposer tous tes espoirs et toute ta carrière sur ce premier roman. Peut-être que ça va prendre plus de temps que tu ne le penses que de faire publier ce premier roman. Peut-être que tu vas avoir beaucoup de refus d'éditeurs ou alors que dans ton parcours d'auteur indépendant, il ne va pas bien marcher ce premier roman. Voilà. Et c'est important que tu fasses vraiment attention sur ce que tu fais dire là-dessus. Parfois, alors je repars là sur l'édition traditionnelle, mais ton premier roman, ça ne va pas être le premier roman que tu fais publier. Parfois, ça va être le deuxième, le troisième, voire le quatrième roman que tu as écrit, qu'on va te publier en premier. Et puisque tu auras un pied dans le sérail, que tu auras un contact un petit peu plus en direct avec ton éditeur à ce moment-là, là, tu vas réussir à placer peut-être des romans que tu avais écrits plus tôt, parce que ton éditeur, il te fera confiance, parce que aussi peut-être que tu auras plus d'expérience et que tu te rendras compte qu'il y avait quelque chose qui faisait que ton premier roman, il y avait une lacune vraiment qui ne passait pas par rapport à un éditeur et tu pourras la corriger ensuite, et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux tout à fait avoir une carrière qui n'est pas linéaire par rapport au roman que tu écris, en fait. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et encore une fois, ce n'est pas parce que ça sera le roman qui est le plus important pour toi que c'est le roman que tes lecteurs ils préféreront. Et ça, ça fait très mal, souvent. Quand toi, tu as un livre où tu as mis tout mis dedans, c'est ton imaginaire, comme on disait depuis que tu es ado, c'est vraiment le truc où tu pensais que tu allais révolutionner quelque chose parce que c'est génial, quoi. Pour toi, c'est vraiment un univers original, justement. Et là, tu écris un deuxième livre qui te plaît, hein, parce que tu aimes tout ce que tu écris, mais bon, c'est pas quand même l'œuvre de ta vie. Et là, c'est ce bouquin-là qui cartonne par rapport au premier. Et ça risque d'arriver. D'où il ne faut pas que tu fasses reposer sur ton premier roman tous tes espoirs et tout. Et tout ta carrière. Et là, Margot, elle a envie de se pendre.
Oui, parce que ça, c'est vraiment un point sur lequel je dois personnellement travailler. Ouais. Et tous ces mots viennent se planter dans mon cœur. Et je regarde ailleurs pour faire en sorte de ne pas trop y penser. Mais je sais. Et vous qui m'écoutez, qui suivez mon aventure, vous savez aussi. Voilà, donc...
Je vais essayer de te remotiver un peu. J'ai l'impression, à chaque fois que je fais une classe aux élèves de l'ICAR, que la première chose que je leur dis, c'est « Bon, ne vous laissez pas démotiver. Hein, je vais vous remotiver. Hein. »
Mais d'abord, je vous démotive un peu.
Et, Et du coup, pour justement essayer de te remotiver un petit peu, la dernière chose que je pourrais conseiller à des auteurs qui doutent d'eux ou c'est très difficile pour eux d'avoir confiance en eux, c'est de vraiment, s'il y a une pratique que tu dois faire de mental, donc une pratique sur ton mental, de travail sur ton mindset, parce qu'on est très anglophone à l'ICAR, voilà, c'est de t'entraîner à voir toujours le verre à moitié plein quand tu sais que tu as cette tendance à toujours voir le verre à moitié vide. Donne autant de temps de cerveau disponible, mais c'est un peu ça l'idée. Donne autant de temps d'écoute, autant de voilà, à ce qui peut marcher en fait, et au fait que à chaque fois que tu te dis de toute façon mon histoire n'est pas assez originale, ou de toute façon c'est bien connu, il y a tellement peu de personnes qui ont des contrats d'édition. Oui, mais il y a des personnes qui ont des contrats d'édition. Essaye, tu vois, de repérer vraiment les pensées qui viennent t'auto-saboter et de construire des affirmations pour un peu les contrer et de pratiquer, de vraiment, mais vraiment proactivement. C'est-à-dire, tous les matins, tu as ta liste et tu la récites devant ton miroir, quoi. Alors, c'est pas forcément devant ton miroir. Tu peux avoir un petit post-it sur ton écran et de temps en temps, tu lèves le nez et tu as un sourire. Et si je peux te donner un conseil justement de coach par rapport à cette idée de cultiver un peu des pensées positives et des affirmations, n'essaye pas de passer de « mon histoire est pourrie, je ne sais pas écrire » à « je suis la prochaine J.K. Rowling » ou je ne sais pas quel auteur. Magnifique, vous aimez. Généralement, ça ne va pas marcher. Ça va vous faire sourire en le voyant, mais tu ne vas jamais y croire, en fait. Donc, ce qui est important, c'est justement que cette histoire de verre à moitié plein, tu la construises doucement avec des choses qui ne sont pas des pensées négatives, mais qui sont des pensées positives dans lesquelles tu peux croire, en fait. C'est des choses qui... Tu sais, c'est toujours mon histoire, je disais tout à l'heure, de croyance, là, de « belief ». Les gens, ils vont se rappeler parce que je fais des anglicismes, bon, bref. Il faut que tu te dises, par exemple, ce que je travaille avec un certain nombre de nos élèves, c'est si tu penses vraiment que tu écris mal, de te dire... alors, peut-être que ça sera difficile pour toi de te dire « Non, non, j'écris bien et tout ce que je fais, c'est génial. » Mais de te dire, par exemple, « Il y a des passages de mon livre que je kiffe vraiment. » Où il y a des passages de mon livre où moi je souris en les lisant. Voilà. Il y a des quand j'écris mon roman, il y a des phrases où je suis contente de moi. Peut-être que c'est pas tout, mais peut-être qu'il y a certaines phrases où je suis contente de moi. Et ainsi de suite, en fait. Pour toujours cultiver dans un coin de ta tête cet aspect un petit peu solaire, cet aspect un peu positif qui va te permettre de pas toujours t'auto-saboter et pas te finir au fond de ton lit à plus vouloir ouvrir ton PC.
Bah, tu sais quoi, cet épisode, c'est un peu comme une séance d'acupuncture. Ça appuie sur les points où ça fait mal, mais c'est pour faire du bien.
Et vraiment... je vais retenir ça.
Oui, écoute.
C'est ça que je vais dire à nos élèves. Alors, je vais appuyer sur les points où ça fait mal, mais je vous promets qu'après, ça fera du bien.
C'est pour démêler les nœuds. C'est ça. En fait, tu viens démêler les nœuds du dos. Mm. Ça fait très mal sur le moment, mais c'est important. Et vraiment, vraiment, j'espère que cet épisode va plaire aux gens, parce que moi, là... J'en ressors gonflée d'énergie positive et de choses sur lesquelles travailler mentalement. Parce qu'il y a toujours du travail et c'est normal. Et tout au long de notre vie, on a du travail et sur tous les sujets, pas que sur l'écriture. Sinon, ce serait trop simple. Et vraiment, je te remercie pour tout ce que tu as apporté dans cet épisode parce que tu as apporté énormément de choses. Et je sens que les gens viendront t'en discuter avec toi parce que c'est pas possible autrement, quoi.
Bah merci à toi Margot, ça me fait vraiment vraiment plaisir d'être avec toi. Ça, comme je disais, on est ultra fiers de ton parcours, on est ultra fiers que tu aies choisi l'ICAR pour te former à l'écriture. Tu aurais pu décider de faire autrement et tu nous as fait confiance aussi et ça a beaucoup compté pour nous. Et là que tu mettes en lumière justement la partie développement personnel de l'auteur pour toute ta communauté, moi ça me fait vraiment plaisir. Alors merci et j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner ce livre parce qu'on te suit, on regarde de près tout ce que tu fais.
Bah, apparemment, je ne dois pas compter que sur mon premier livre, donc il va falloir que j'en écrive d'autres.
Mais c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Mais le verre à moitié plein, rien ne dit que ton premier livre ne sera pas un grand succès. Et je fais confiance à ta communauté aussi pour te suivre et puis pour aller voir ce que tu fais le plus vite possible.
Merci beaucoup. Mais tu sais, le premier épisode de ce podcast, le tout premier, c'était sur le perfectionnisme et la peur de l'échec.
C'est vrai.
Donc, oui, oui. Donc c'est pour ça que moi, t'inviter, c'était quelque chose que j'avais noté sur... Tu sais, j'ai une liste complète d'idées d'épisodes et d'idées de personnes à interviewer, dont certaines personnes où je me dis, il va falloir que j'attende encore un petit peu parce que ça me fait trop peur pour le moment. Et toi, tu es sur cette liste depuis un bout de temps. À chaque fois, je regarde, je suis en mode, cet épisode, j'ai envie de le faire. Je ne sais pas encore quand, mais je vais le faire. Et je suis tellement heureuse que tu aies accepté de le faire parce que c'est un sujet primordial et sur lequel on ne parle pas assez souvent parce qu'on parle tellement de conseils pour écrire un roman, mais jamais de conseils comme pour être bien dans sa tête au moment de l'écrire. Et vraiment, c'était essentiel pour moi de t'avoir sur ce podcast pour pouvoir discuter de tout ça pendant 1h10 vraiment avec toi profondément. Et vraiment, merci beaucoup pour ça.
Ben, merci à toi, Margot. Du coup, si jamais les gens veulent connaître un petit peu plus l'activité de Lika, n'hésitez pas à aller voir notre Insta. On fait des réels. on a fait des réels après Margot. Hein. C'est Margot qui nous a inspirés. Voilà, on regarde à chaque fois, on se marre sur ce qu'elle fait. Et du coup, on a essayé ça.
On a fait très bien.
On se marre bien, en tout cas. Je ne sais pas si ça aide les auteurs, mais nous, on se marre bien, donc c'est déjà ça. Et du coup, on a une prochaine session de la formation Devenir écrivain qui sera le 7 février. Du coup, n'hésitez pas à venir voir ça. Et je sais que ma collègue Lucie Castel prévoit 2 masterclass de conseils d'écriture sur le mois de janvier. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram de Licard ou sur le site web de Licard, licard.fr/masterclass, pour faire simple. Et vous trouverez toutes les informations pour ça. Je crois que la première, ça sera le 20 janvier et ça sera autour des 5 erreurs fatales qui vous empêchent d'être publié. Voilà, pourquoi est-ce que les éditeurs ils rejettent votre texte, elle va tout vous dire. Et c'est les deux jeudis de la fin de janvier. Donc la deuxième masterclass, c'est le 27 janvier à 20h. Et c'est sur 5 conseils pour les auteurs débutants pour écrire votre premier roman. C'est tout ce qu'il faut savoir. Lucie va répéter tout ce que Margot dit dans son podcast de manière synthétique sur 1 heure.
Et je tiens à préciser, les masterclass sont gratuites. Donc ça, même si vous ne comptez pas après participer à la formation, c'est toujours bon à prendre. Donc n'hésitez pas à aller voir, surtout que Lucie est passionnante à écouter. Et j'en profite aussi pour placer que j'ai la grande fierté d'être partenaire Licard depuis 3 sessions maintenant. Et c'est toujours un grand plaisir de discuter avec vous, de vous partager mon expérience avec cette formation et de vous dire que voilà, si vous souhaitez investir dedans, parce que c'est un investissement pour l'avenir et c'est un vrai coût financier, mais ça, on en a discuté beaucoup. Et si vous avez besoin de venir en discuter, que ce soit avec Johanna, avec moi, n'hésitez pas. Ben voilà, moi, j'ai un petit code promo que je suis contente de poser. Et c'est juste mon nom, donc Margot, ça vous donne 75€ de réduction. C'est déjà ça à prendre et je suis tellement heureuse de pouvoir permettre à des personnes d'avoir une réduction pour cette formation qui est super et qui permet de rétablir toutes les bases. Donc n'hésitez pas à aller suivre Licard sur Instagram, vous avez une chaîne YouTube aussi avec le podcast parce que bien sûr ils ont un podcast Devenir écrivain qui est top avec Johanna et Lucie Castel en intervenante. Et vraiment, elles sont très complémentaires à ce que je fais parce que moi, vous m'entendez beaucoup parler de ma vie quand même, finalement. Alors que...
Non, c'est pas vrai. Mais elle est super intéressante de ta vie en même temps. Hein. Donc,
moi, ça me plaît d'entendre parler de ta vie. Vous allez voir que le podcast Devenir écrivain est super. Si vous ne l'avez jamais écouté, vraiment, je vous le conseille parce qu'on n'écoute jamais ces podcasts. Et encore merci pour cette interview.
Merci beaucoup, Margot. À bientôt.
Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts, à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @margotdesen pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.